CO2 Mon Amour, bonjour Denis Chessou.
Bonjour Charles Decan.
Vous nous emmenez à Angers ce dimanche. Qu'est-ce qui se passe à Angers?
Bon, écoutez, d'abord, nous sommes dans le Maine-et-Loire. Nous avons le premier festival, nous avons le festival quand même de premier plan. Puis c'est une ville verte qui est intéressante, qui se retourne vers son fleuve, on va dire sa rivière, qui est donc la Maine. Alors, ça m'intéresse bien de faire un mélange entre écologie et urbanisme.
Eh bien, bon voyage.
Allez.
Qu'est-ce que vous nous préparez, Radio Plus, plus près du gadget?
CO2, mon amour.
Alors, on a été d'abord plus près de la femme, plus près des jeunes, plus près du couple, plus près du sexe, et maintenant, on est plus près de la nature.
Il faut vivre avec les modes de son temps. Ça éclate de partout. Regardez ça. C'est l'évidence. On ne se discute pas,
ça. Ah oui, mais vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça?
Je crois à ce qui est dans le vent.
Denis Chessou.
Je ne suis pas un sceptique perpétuel, comme vous.
Sur France Inter.
Eh ben oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir en ce dimanche, CO2 Mon Amour. Votre émission très très nature avec Patrick Henry à la technique aujourd'hui, avec Camille Blanès, angevine d'ailleurs, et Jérôme Boulet, donc qui réalise l'émission. Et qui débute toujours, vous le savez, par une petite humeur très subjective, car sur leur promontoire, eh bien, deux loups, qui s'étaient rencontrés l'an passé lors d'un apéro brebis pour loups célibataires, regardaient scintiller la vallée. Pourquoi tant de violence partout, se disait-il. Bon, certes, nous, on n'est pas des enfants de cœur, on n'a pas appris que les bonnes manières depuis que nous sommes apparus il y a 40 millions d'années en Amérique du Nord. Vous, le sapiens, vous n'étiez même pas dans le circuit de la vie. Ah, et puis je crains qu'il faille attendre encore quelques milliers d'années pour obtenir un loup vegan disputant l'herbe aux moutons. Ouais, pourquoi tant de violence un peu partout? On tape sec sur les manifestants, sur les flics, sur les retraites, sur nous les loups. Violence aussi à Paris, gratuite et lâche comme à la rotonde, pour attaquer, qu'on soit d'accord ou non avec lui, la figure du président de la République. Non, on n'est pas d'accord avec ces méthodes. Même si pour un certain nombre d'élus rétrogrades et leurs amis de chasseurs, soumis à leur électorat moutonnier, il faut flinguer tout ce qui dérange l'homme, tout ce qu'il ne maîtrise pas. Mais alors, soyez zen, parce que au XXIe siècle, vos enfants et vos chaperons rouges nourris de céréales américaines, de barres chocolatées, de soda et de 4 heures d'écran par jour, eh ben, on n'en veut pas, on va pas les bouffer, non, on a le respect de l'aliment en nous. D'abord, bon, c'est vrai qu'il nous manque quand même la case de 5 fruits et légumes, ça je vous l'accorde, là-dessus on est un peu réfractaire. Alors, sur notre promontoire de ce très beau département des Hautes-Alpes très nature, on n'a pas pu voir passer le Dakar quand même et sa promo carte postale de l'Arabie Saoudite qui s'achète une jolie image pour 5 ans en éclatant les dunes et ses journalistes. Non, ici chez nous, non loin du col du Noyer, on va avoir 4 jours de rallye de Monte Carlo, une institution ancien monde, du Viagra 300 chevaux, érection assurée devant les gros cylindres. Alors bien sûr, il y aura du monde, et n'essayez pas de râler contre, la liberté de polluer n'apprécie pas la contradiction. Département nature, vous dis-je, la preuve, nous les loups, on nous déteste, mais on y est. Alors des milliers de visages couvriront les virages de montagnes les plus dangereux que les pilotes négocieront en crissant du pneu. Grand frisson par procuration. Est-ce que ce monde est sérieux? En fait, c'est le moteur qui a gagné. Eh, dis donc, tu l'as vu, toi, le beau film de Jean-Michel Bertrand, là, qui a bien démarré, la marche avec les loups. Il met les humains et nous, les canidés, à la bonne distance. Eh ben, nada, rien, aucun soutien local, alors que ces images sont une des plus belles vitrines pour ce département. Bah, lui aussi subit la violence des menaces de mort reçues à cause de nous. Écrit par des binaires parce qu'il évoque le partage du territoire. Et en fait, la vraie course qui se joue, ce n'est pas le Monte Carlo, c'est la course contre la montre entre la rapidité des phénomènes et nous qui en rajoutons ou qui réparons, agissons, avec comme seule issue de faire avec la nature, qui est notre grande mutuelle à tous. Est-ce qu'ils vont piger ça, tu crois, à Davos, en réaffirmant que l'environnement est leur priorité, qu'ils en rêvent tous la nuit, hein? Allez, viens ma louve, entre deux cartouches et une flopée de voiture, on rentre à la tanière. Il fera pleine lune sur le dévoluie. On chantera et tu verras, même les étoiles vont nous répondre. Et bien sûr, vous pouvez retrouver en podcast hein, donc cette marche avec les loups. Donc c'était la semaine dernière. CO2 Mon Amour, donc bien chez vous, donc très nature, nature, animaux, mais aussi portrait de territoire. Et aujourd'hui, bah donc ce sera à Angers avec France Inter, partenaire de ce festival. Le premier plan, c'est dans quelques instants après cette première chanson.
Si sur l'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule loyale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mais lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. L'être infini que je suis.
L'être infini.
Parce que ta bouche a une fausse note, que c'est la perfection divine.
L'être infini, infini.
Pourquoi dans l'or c'est toujours quand ça frotte, quand ça trébuche que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? Que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. L'être infini que je suis.
L'être infini.
Une lettre dans la lettre, en quelque sorte.
L'être infini, infini.
Une page blanche avec au beau milieu un simple M. Une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes.
L'être infini.
Sans un mot, tout est dit, infiniment et pour la vie.
Du papier, une lettre, une enveloppe, un timbre, un mode de communication réhabilité par M, l'être infini.
Moi, j'aime me lever tôt.
CO2, mon amour.
Avec la lumière. Aller pisser. Dehors, contre un arbre. Putain.
Denis Chessou.
Pisser contre un arbre.
Sur France Inter.
Voilà, où êtes-vous les Plantagenets? Où êtes-vous le roi René, château schiste sombre, rayé d'un lit de pierre blanche? Oh, 17 tours rondes qu'on a découronnées. Allez, venez, la cathédrale Saint-Maurice n'est pas loin, on part à Angers.
On est ici, effectivement, au bout du monde, sur une espèce de promontoire devant le château qui ouvre vers un large panorama sur la rive droite, la Doutre.
Donc ça appartient à Angers, la Doutre. Hein.
La Doutre, c'est un quartier d'Angers, c'est oui. Le quartier de la rive droite.
C'est un peu le début de la Bretagne, non?
C'est le début, géomorphologiquement, c'est le début de la Bretagne. Donc ici, du bout du monde, là, on domine effectivement les premières étapes d'aménagement avec la création au pied du château d'une grande promenade, la promenade Jean Turc. Ici, on s'est contenté d'améliorer les conditions de cheminement. C'est une voie verte qui fait 5 mètres de large, qui est en béton, qui accueille les piétons et les cycles. Et puis, on a participé à augmenter un petit peu la qualité végétale de paysagement du site.
Jolie la promenade du bout du monde, alors tapisserie de l'apocalypse, hein. Future labellisation, on l'espère, au patrimoine de l'UNESCO, sa réplique moderne, le Chant du Monde de Jean Lursa, le château donc, et jusqu'au 26 janvier quand même ce festival premier plan, premier film européen, rétrospective de Pardon, présidée par Juliette Binoche, avec donc le partenariat de France Inter. Bienvenue à Angers, 150 000 habitants, 42 000 étudiants. Le bon roi René, je vous l'ai dit, une des villes les plus vertes de France, 100 mètres carrés d'espace paysager par habitant, avec un travail quand même de longue date de différents maires, Jean-Claude Antonini, Christophe Béchu aujourd'hui. Et donc à moins de 500 mètres, vous avez un espace vert sans pesticides qui vous attend. Et quand même 5% du budget qui est dédié à la création, à l'entretien des espaces verts. C'est à peu près, si vous voulez, 3-4 fois plus que partout ailleurs. Alors aujourd'hui, petit portrait de territoire et de reconquête de la Maine, rivière aux allures de fleuve, mais alors quand même, c'est un peu difficile de se la péter quand on mesure que 10 km. Non, on reste calme à Angers. On est sur une terre catholique sans aucune démesure. Nous étions à la fin du printemps, les hirondelles pointaient leur nez avec Paul Gréter, urbaniste sur l'esplanade du bout du monde et cette opération Cœur de Maine.
Le sujet principal a été de gommer le caractère autoroutier, c'est-à-dire les grands portiques, toutes les glissières en métal. On a déshabillé la voie pour lui donner un caractère, un paysage urbain mieux intégré dans la ville. Le maire et le conseil départemental ont accepté d'abaisser la vitesse. Donc aujourd'hui, on roule à 50 km/h et on a essayé d'améliorer les fonctionnalités de cette voie. La voie autoroutière, c'est une voie de transit, c'est un tuyau qui traverse. C'était son rôle avant, quand c'était encore l'autoroute. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une voie qui irrigue le centre-ville, qui donne accès au commerce, qui donne accès au parc de stationnement. Et c'est donc de multiplier les échanges, une forme de porosité entre la voie, l'infrastructure routière, et les voies du centre-ville. Donc là, on est sur une première étape. On a amélioré aussi son caractère végétal en plantant la partie centrale et en retrouvant, notamment de nuit, un caractère lumineux plus urbain. On a supprimé les grands mâts d'éclairage qui faisaient 10 mètres de haut pour retrouver un éclairage urbain au pourtour et on arrête d'éclairer la chaussée.
C'est-à-dire qu'Henri de Plantagenet, donc, le gars, il avait les pieds dans l'eau. Hein. En gros, c'était ça, avec une Maine qui devait sûrement un petit peu déborder. Enfin, bon, voilà. Et il avait un petit chemin quand même en bas, là.
Ici, cet espace entre le château et la Maine et la rivière était hier habité. Il y avait des habitations, des maisons, c'était un vrai quartier. Donc le quartier de Ligny, on avait deux îlots. Ce quartier a été démoli à la fin des années 60, début des années 70, pour la réalisation de la voie. Et quand on a fait des travaux, nous ici, on retombe, on trouve les caves des anciennes habitations. Ah oui. Donc les habitants d'Angers étaient là, directement devant la rivière. D'accord. Et on est face à la cale Ligny, qui est la première cale qui permettait d'alimenter Angers via la navigation de la Loire puis de la Maine.
Ouais, ce qu'on appelle la cale, donc c'est un peu un petit port. Quoi.
Les deux premières cales sont sur la rive gauche, la cale Ligny, notamment déchargée des cargaisons et du bois, et un petit peu plus à l'amont, la cale qui permettait d'alimenter les usines Cointreau. Un très beau bâtiment en briques ici, donc qui fabrique cet alcool, le Cointreau, à base d'écorce d'orange amère. Et les bateaux venaient là décharger dans l'hypercentre leur cargaison pour alimenter la distillerie.
Donc on avait de l'eau douce d'un côté et du 20 ou 40 degrés de l'autre. Quoi.
Ah bah. C'est ça.
Alors l'approche biodiversité, vous savez, pour beaucoup de villes, ça arrive comme par hasard en fin de mandat. Hein. C'est pas forcément dans la culture première, mais ici quand même, Angers, on a pris le virage depuis pas mal de temps. Alors c'est pas juste, si vous voulez, deux lilas et cinq géraniums au milieu d'un rond-point, en fait, de biodiversité. Non, on peut couper un petit bout de son trottoir devant sa résidence, on peut végétaliser. Alors vous voyez plein de mini-jardins, c'est assez sympa ça. Qualité de l'air quand même qui est assez bonne. Et puis alors là, une belle volée de marches et en bas, un point d'eau qui brille. Alors là, vous l'entendez, je suis sur un autre lieu, alors toujours au bord de la Maine. Je suis descendu de la superbe cathédrale Saint-Maurice avec une volée d'escaliers assez extraordinaire. Et puis on arrive alors sur un plan d'eau là aussi qui fait partie un peu de cette reconquête. Bonjour Jean-Marc Verchère.
Bonjour. Merci.
Alors l'ingénieur que vous êtes donc est un homme évidemment assez heureux parce que vous êtes passionné par tout ça. Ça a été quoi le boulot, on va dire, d'un ingénieur pour essayer de raccommoder donc à la fois ces deux rives et puis une fois de plus d'apaiser un peu plus cette ville, quoi.
Le mot raccommoder est le bon hein. Pour un ingénieur, pour les techniciens, mais pour les élus aussi, tout ça c'est comment faire des lieux de vie de ce qui était des lieux qui étaient un peu abandonnés des Angevins, qui étaient des lieux de passage de voitures à flot. Comment recoudre tout ça, intégrer un nouveau pont pour faire passer le tramway, reconquérir les vrais bords de l'eau par des voies douces. En haut, comment faire des lieux de vie, une esplanade, ce jardin et cette fontaine. Tout ça, c'est à la fois de l'ingénierie, mais c'est aussi du bon sens, c'est de l'écoute des gens, de ce qu'ils veulent faire aussi de leur ville, et comment on peut les amener à revenir au bord de l'eau.
Et vous faites partie de tout ce mouvement des grandes villes, c'est-à-dire qui ont été complètement vendues à la bagnole et qui tournaient le dos donc à leur fleuve. Là, on est à la sortie de la guerre et jusque dans les années 70-80 à peu près, et à partir des années 90, on se dit, tiens, on a un fleuve, ou bien on a une rivière comme la Maine, et ça y est, on va pouvoir de nouveau respirer avec.
Et je crois qu'il faut s'appuyer sur l'histoire. Et c'est vrai qu'on peut on peut critiquer ce qu'ont fait nos anciens, mais à l'époque, en 70, Paris-La Baule ou Paris-Sable d'Olonne, ça passait devant la mairie ou dans les petites rues. Et donc, ils ont fait cette voie rapide, cette voie rapide, beaucoup trop rapide, et qui a coupé vraiment la mène de la ville. De ce fait-là, on s'est détourné, un peu comme à Lyon, un peu comme où il y avait ces voies rapides. Et bien là, on a essayé d'en faire un atout, en apaisant, en couvrant, et en mettant les vélos au cœur, les piétons au cœur, l'animation.
Et Jean-Marc, on peut dire que maintenant, Angers devient petit à petit donc une ville cyclable.
Alors, Angers devient une ville cyclable, même si moi j'ai l'habitude de dire que c'est toujours à gagner, toujours à conforter. Dans les petites rues, il faut vraiment ralentir la bagnole, la contraindre pour que les vélos, les piétons aient de l'espace et se respectent. Mais Angers a fait de gros efforts en la matière depuis un certain nombre d'années. On avance fort, on vient d'approuver notre plan vélo. Il y a des voies vertes, mais il y a surtout le vélo, ça se gagne quand on va au boulot en vélo, pas que quand on fait de la rando. Et quand un gamin qui va au collège, on le laisse sortir, c'est important. Et c'est pour ça que dans notre plan vélo, on a doublé le nombre d'animations dans les écoles pour que toutes les écoles, un peu comme la piscine, passent à la prévention routière, des choses comme ça. Et ce site sera un lieu où vraiment les vélos seront en roi, même si tout n'est pas parfait.
Ouais, moi j'ai testé, donc sur place, c'est vrai qu'on n'est pas forcément en urgence, en train de paniquer donc à chaque coin de rue. C'est pas encore Strasbourg, si vous voulez, mais quand même, ça avance bien. Et puis surtout, c'est pas fait que pour les bobos du centre-ville, c'est-à-dire que ça relie aussi tout le périurbain, donc rural. Allez, on retrouve Paul Gretter, notre urbaniste.
Aujourd'hui, je crois qu'on vit un changement un petit peu de paradigme dans la fabrication de la ville. C'est-à-dire, hier, le projet urbain, c'était d'abord un projet d'opération, de mobilité aussi, les voies, les emprises constructibles. Et aujourd'hui, c'est vrai que la dimension paysagère, au sens noble du terme, c'est-à-dire la dimension environnementale, la qualité que peuvent trouver les futurs habitants dans la relation à travers les espaces publics, ces lieux de vie collective, de fédération. Et aujourd'hui, effectivement, on part plutôt des usages, des pratiques de l'espace public, la façon dont le caractère végétal peut être renforcé, amélioré, pour ensuite voir ce qu'on peut faire et comment on l'a fait.
Alors parlons quand même, Paul Gretter, de ce miroir d'eau. Alors c'est pas, il n'est pas aussi ambitieux que celui de Bordeaux, mais il a vraiment tout son sens. Il est inscrit aujourd'hui dans cette ville, au pied de la cathédrale et juste avant la Maine.
Effectivement, alors d'abord l'eau, par le bruit de son ruissellement et des jets ici, permet de masquer un petit peu le bruit de la ville et le bruit de la route départementale. C'est aussi un lieu ici que j'aime beaucoup dans sa réalisation parce qu'il fédère, il concentre toutes les populations de la ville d'Angers. Ici, les jeunes enfants, les enfants des quartiers un peu périphériques, des quartiers d'habitat social, viennent ici se retrouver parce que c'est un lieu gratuit. C'est un lieu où on retrouve les jeux d'enfants, on peut courir dans la fontaine, dans ce miroir d'eau, on s'amuse avec les jets. Et on a vraiment une diversité, une mixité de populations. Et c'est aussi ça, la démocratie, c'est un élément fondateur de la fabrication de la ville.
Alors là, je ne marche pas sur un sentier de montagne, hein, je vous rappelle qu'on est quand même toujours à Angers, mais je marche sur du schiste pour rejoindre qui ? Bruno Kaufmann. Bonjour Bruno Kaufmann.
Bonjour Denis.
Alors on va parler avec vous de cette merveilleuse guinguette qui se pose là sur l'esplanade toute verte et qui s'appelle ?
Elle s'appelle la machine à bulles.
Bon, alors vous avez en fait remporté, vous, un appel d'offres, mais surtout vous l'avez gagné parce qu'il y a quand même un projet collaboratif. Avec qui vous avez travaillé ?
Alors on a rassemblé une vingtaine de partenaires qui sont exclusivement des acteurs locaux, notamment de l'économie sociale et solidaire, avec plusieurs entreprises ou chantiers d'insertion, avec des acteurs de l'économie circulaire, créateurs de potagers urbains, créateurs de végétalisation d'événements, un ESAT qui a pour une bonne part une activité de légumerie dont les personnes qui travaillent en situation de handicap nous prépareront certaines découpes de légumes, un certain nombre de légumeries principalement issues de l'agriculture biologique dans le coin également.
Et puis je vois le mobilier, ça semble recyclé quand même, hein.
Alors le mobilier, il est quasi exclusivement issu de la ressourcerie des Biscottes, ouais. Dont Benoît Akaoui, mon adjoint sur ce projet, est le directeur. C'est un chantier d'insertion qui travaille au réemploi de mobilier, de matériel, et qui effectivement nous a fourni l'essentiel et de la vaisselle, et des chaises, des tables, et d'une partie de la décoration de la machine à bulles.
Alors, il faut quand même le dire, ce n'est pas une opération bobo, écolo, angevineau, communicante. Hein. Ça va quand même beaucoup plus loin.
Ce qu'on s'est dit avec Hélène, ma compagne, quand on a commencé à réfléchir à cet appel à projet, c'est qu'il ne fallait pas simplement être dans un vernis de ces caractéristiques que vous citez, Denis, mais d'aller le plus loin possible en valeur ajoutée et environnementale et sociale, et dans la dimension collaborative du projet, autant qu'il était possible sur un projet éphémère pour 3 mois.
Paul Gréter, donc un mot justement sur cette esplanade, où se trouve notre guinguette?
Eh bien oui, juste à côté de la guinguette, on a un grand terrain, un grand rectangle vert qui chapeaute la route départementale. Et l'idée, c'était ici de retrouver ce qu'on appelait une grande esplanade, c'est-à-dire un peu comme la place centrale du village, un lieu où on rassemble tous les Angevins au cœur de ville, qui permet d'étendre aussi d'étendre le centre-ville vers la rivière, parce que l'objectif principal, c'est quand même de réouvrir ce centre-ville vers la rivière, vers la rive droite aussi, avec le nouveau pont, le pont du tramway, qui va être un nouveau lien entre les deux rives. Et donc, c'est 3000 m² pour venir jouer, pique-niquer, s'installer, profiter du soleil, venir peut-être comme une terrasse de la guinguette, et c'est un endroit ouvert à tous, gratuit, intergénérationnel, qui est une grande terrasse sur la rivière.
Et comme on est vraiment dans l'actualité, et ben, le JDD aujourd'hui a classé Angers parmi les villes où il fait bon vivre. On va y retourner. Oh, on passe d'abord par l'Alabama sur France Inter.
Très peu de rapport avec Angers quand même. Brittany Howard, donc du groupe Alabama Shucks, qui interprétait Georgia. Alors cette ville, donc ils adorent les objets connectés. Hein. Canalisation qui signale les fuites, des capteurs qui analysent dans les parcs l'humidité du sol pour déclencher l'arrosage. Il s'agit quand même de réduire de 30% la facture. Ça c'est valable, cet exemple-là il est valable absolument pour toutes les communes aujourd'hui. Hein. Adapter aussi l'éclairage, donc à la fréquentation sur les 29 communes, ce qui fait que vous gagnez quand même pas loin d'1 million si vous voulez par an sur votre facture. Et puis quand même planter des arbres aussi dans les prochaines années avec une nouvelle forêt urbaine sous l'ADEME, parce que l'ADEME, ils ont leur siège aussi donc du côté d'Angers. On retourne saluer la Maine.
Je ne suis pas allé très très loin, mais là je quitte les pieds du château.
Et j'arrive directement sur la Maine, mais véritablement, hein, c'est-à-dire qu'on est sur les rives avec le schiste qui affleure, des péniches en face, et puis donc le pont de Verdun qui est sur ma droite, avec pas très très loin le pont de la Haute-Chaîne d'un côté, pour rejoindre Édouard Bellot. Bonjour Édouard.
Bonjour Denis.
Alors c'est bien, vous avez vraiment le matériel qu'il faut, du naturaliste, autrement dit les jumelles, et vous êtes vous chargé de mission à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, donc c'est intéressant aussi de voir comment se passe cette opération Cœur de Maine, mais avec le regard donc, du naturaliste aujourd'hui.
Donc ici on est sur vraiment les berges de Maine, sur le côté un peu plus naturel.
Ah oui.
Donc on peut voir en face des hirondelles de fenêtres,
ouais,
qui viennent se nourrir pour aller au nid ensuite, qui sont dans les rues un peu derrière là-bas.
On a une de rivage aussi, l'attaque.
Ouais. Et puis on a dans l'eau des canards qui passent. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure on entendait une petite bergeronnette qui est la bergeronnette des ruisseaux, alors qu'on est en plein centre-ville d'Angers. Ce qui est bien sur ce secteur-là, c'est qu'on peut voir la transition entre de la berge, on va dire naturelle, où on peut voir le rideau de végétation, et puis du minéral. On a toute une avancée en béton. Et dans le projet, c'est un petit peu ça qui nous intéresse, nous, d'accompagner la ville dans ce sens-là. C'est comment on peut faire une continuité dans cette rupture. Au niveau du pont de Verdun, par exemple, on a vraiment un point noir. De chaque côté, les berges sont minérales. Donc là, on imagine les...
Comment on fait revenir de la vie, quoi.
C'est ça, voilà. Ouais. Comment les espèces qui arrivent jusque-là, par ce bourrelet de végétation, comment peuvent continuer leur chemin, quoi.
Alors vous faites un inventaire au départ ?
Ouais, depuis 2013, on fait des relevés naturalistes, donc qui portent sur les principaux groupes qui permettent d'orienter la gestion, et puis des groupes un peu moins connus, moins suivis. Donc on a étudié les criquets, les sauterelles, on a relevé là 29 espèces sur la zone, dont le cortège forcément a inféodé aux zones humides. Donc on a du criquet ensanglanté, du grillon des marais, des torrents, pardon.
Ouais.
Et puis on a relevé des choses intéressantes comme certaines libellules. On a 19 espèces au moins recensées sur la zone du projet Cœur de Maine.
Alors comment fait-on, justement, parce que là on voit donc cette ligne gentiment bétonnée. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va revégétaliser, on va le péter, on va...
Non, l'idée voilà, c'est de faire en sorte qu'il y ait une rugosité qui n'est pas existante pour l'instant, pour que des sédiments puissent rester.
Ah oui.
Et que la végétation puisse s'accrocher, entre guillemets.
Et après, le boulot va se faire tout seul.
Après, c'est la faune qui s'installera dans ces écosystèmes.
Édouard Bellot, vous nous parliez du criquet ensanglanté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que c'est un sacré karma, ça. Donc, pas facile à porter comme nom.
Ouais, alors c'est par ces motifs qui portent ce nom. Après, pour l'anecdote...
C'est-à-dire qu'il est un peu rouge.
Il a les tibias rouges, oui, en effet. Ah, il a des très belles couleurs. Donc c'est un beau criquet, assez imposant. Et pour l'anecdote...
Mais c'est sa couleur naturelle et c'est l'homme qui l'a baptisé ensanglanté.
C'est ça,
parce qu'il aime la nature.
D'espèces, les noms, ce qu'on appelle les noms vernaculaires, les noms communs, sont en fonction de l'habitat ou en fonction de l'apparence de l'espèce.
Édouard Bellot, on est quand même au pied du château, au pied des falaises. Donc là, il y a du vert, en veux-tu, en voilà, sur ce schiste. On imagine bien que ça doit être un régal, ça peut-être pour nos petites chauves-souris, pour d'autres espèces.
Alors c'est un régal si on le laisse, puisqu'il faut aussi replacer les choses, c'est qu'on est dans un contexte urbain. Et à une époque, le mur n'a pas toujours été végétalisé comme ça, parce qu'il va s'opposer deux choses. Il va s'opposer les gens qui vont vouloir protéger le bâtiment, parce que forcément, s'il y a de la végétation qui s'installe...
S'il y a du lierre qui s'accroche dedans.
Voilà. Après, le lierre, c'est pas ce qu'il y a de pire. En tout cas, ce lierre-là, en ce moment, ces tapis de lierre permettent à des oiseaux de s'abriter, soit en période de reproduction, soit ils viennent chercher leur nourriture. Tout à l'heure, on a pu voir une mésange charbonnière, justement, qui venait chercher sa nourriture et hop, qui retournait au nid nourrir ses jeunes. Et puis, on a effectivement les chauves-souris qui viennent souvent, tout le long, d'ailleurs pas qu'au pied du château, sur les berges de Maine, viennent chasser. Il y a quelques colonies de reproduction au sein du périmètre Angers-Cœur de Maine qui se situe en face, sur la place de la Rochefoucauld. On a une colonie noctule, une noctule commune.
Ben merci Edouard, on va poursuivre le voyage. Je vais traverser...
Regarde, il y a un papillon là.
Ah oui.
Pour les érudits Pararge aegeria, oui. Le tir 6.
Le tir 6.
Voilà.
Ah oh ben c'est un petit tir 6 même. Il est beau. Grand merci Edouard, et puis à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Et on va poursuivre le voyage et le terminer avec vous, Sylvain Cholet, technicien gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur Angers-Loire Métropole et Angers. Alors vous restaurez des milieux aquatiques avec ces basses vallées angevines et dedans il y a l'île Saint-Aubin que connaissent de 600 hectares que connaissent évidemment les Angevins. Alors on est quand même à la triple confluence hein, parce que voilà, vous avez différents bassins versants, l'arrivée de la Mayenne du massif armoricain, vous avez la Sarthe et le Loire qui viennent du bassin parisien. Bonjour, bonjour Sylvain.
Bonjour, oui c'est cela. Donc effectivement, cette zone de confluence va influer fortement le rythme des inondations au nord d'Angers et donc sur l'île Saint-Aubin où on a un vaste espace qui fait au nord 3 500 km de large pour se réduire aux portes d'Angers à 150 mètres. Donc ça forme un goulot d'étranglement qui va permettre à l'eau de s'étaler sur une grande surface, donc environ 600 hectares, et de jouer un rôle d'éponge important.
Ce qui veut dire que quand il pleut en Bretagne ou à Paris, en fait ce sont les eaux qui vont arriver donc chez vous, avec entre autres cette Maine. Alors ça veut dire que les activités humaines dépendent de ces écoulements, enfin, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a tout un travail à faire en amont.
C'est ça, tout à fait. En fait, il s'agit de contraintes naturelles fortes, parce qu'on ne contrôle absolument pas le rythme de ces inondations. Et donc cette contrainte va devenir un atout en limitant fortement les activités humaines, notamment les activités agricoles qui sont la fauche et le pâturage, parce qu'on ne va pas pouvoir développer de cultures autres, et surtout aussi tout ce qui est aménagement, imperméabilisation ou infrastructure, parce que le rythme des inondations est incontrôlable. On est obligé de vivre avec, en fait.
Alors comment on réglemente l'eau avec ces activités parfois qui sont contradictoires ?
Alors avec ces activités contradictoires, eh bien on a essayé de restaurer tout le milieu aquatique de l'île Saint-Aubin en fait, en travaillant avec les agriculteurs, avec les chasseurs, avec la LPO, afin de trouver un équilibre dans la gestion des niveaux d'eau pour restaurer les fonctions naturelles de cette zone, c'est-à-dire un rôle d'épuration, d'étalement des crues, de rechargement des nappes, mais tout en tenant compte de la faune et de la flore qui est très riche, très importante, et notamment une espèce d'oiseau qui vient se reproduire dans les prairies qui s'appelle le râle des genêts.
Ah, très bien le râle des genêts, bien sûr, oui. Donc il y a quand même des populations qui ne sont pas si importantes que ça, donc vous en avez chez vous.
Voilà, c'est ça, on a entre 50 et 75% de la population nationale. Donc étaler les crues en période d'hiver, c'est important, mais au printemps, il faut que l'eau elle puisse repartir assez aussi rapidement pour garantir le succès de reproduction de cet oiseau et les pratiques agricoles de fauche et de pâturage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment tout ce travail que vous effectuez, parce que en fait, on se doute bien que l'aval dépend donc aussi de l'amont, et on est tranquille dans sa ville, mais il ne faut pas avoir les pieds dans l'eau, et donc c'est tout ce travail-là que vous effectuez.
C'est ça, donc c'est un gros travail de régulation, et l'avantage c'est que c'est une zone qui est naturellement protégée par elle-même, parce qu'elle fait une grande surface, elle est reconnue au titre de Ramsar, qui est une convention internationale sur les zones humides, mais la difficulté aussi, c'est aussi de protéger tout un tas de petites zones humides qui sont à l'extérieur et qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. En fait.
Bah écoutez, un grand merci à vous Sylvain Cholet donc, d'avoir complété tout cela, et dans quelques instants, bah, vous allez voir, on va terminer l'émission avec un très joli petit bout.
Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
CO2, mon amour.
La salade verte, c'est le mystère.
Sur France Inter.
Oui, c'est vrai que c'est le mystère. Jean Carmet avait bien raison. Brouillé pas si loin que ça, d'ailleurs, son pays d'origine d'Angers, en définitive. Là, on est davantage sur la Loire plutôt que sur le Loir, etc. Cynthia Fleury est philosophe, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, où elle enseigne. Et donc, on va retrouver notre mot de l'environnement, fin d'émission, en prenant de la hauteur du territoire angevin. On va parler donc de la Terre. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour Denis.
Alors on a souvent et à tort raillé l'hypothèse Gaïa, c'est notre mot du jour de Lovelock.
Ben oui, parce qu'on en a fait quelque chose de New Age, mais en fait pas du tout. Hein. Lovelock, chimiste, avait tenté avec Margulis de ratifier scientifiquement une intuition qui a été longtemps pensée par des philosophes. Hein. On pense aux stoïciens, on pense à Teilhard de Chardin, mais aussi d'autres scientifiques avant lui. Kepler, Lamarck, Newton, tous ces gens-là ont considéré quoi ? Ont considéré que les êtres vivants étaient reliés ensemble. Dans un grand système Terre, comme si celle-ci était un super organisme, un système physiologique dynamique. Et il a appelé, notre cher Lovelock, ce système Terre, Gaïa, et plus précisément même l'hypothèse Gaïa.
Alors évidemment, petit clin d'œil, il y a la déesse grecque hein, qui signifie la Terre.
Oui, et dans ce texte, en fait, il définit, par exemple, l'atmosphère comme une extension dynamique de la biosphère elle-même. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas un fait biologique séparé, mais comme la continuité de la biosphère.
Alors, si on prend un petit exemple, allez, je suis un oiseau.
Mais, si effectivement l'atmosphère est un oiseau, si toi tu es un oiseau, l'atmosphère serait comme les plumes de cet oiseau. Hein, et donc, c'est-à-dire une extension d'un système vivant conçu pour quoi ? Conçu pour préserver un environnement choisi. Et les sciences qui ont défendu cette hypothèse se nomment désormais les Earth System Science et elles sont grandement mobilisées dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Alors, Cynthia, qui en fait a anticipé ces sciences du système science, on va dire, où tout est imbriqué, tout est interdépendant?
Alors, un des grands auteurs, c'est Vernadsky, qui est un penseur du début du XXe, et qui a forgé le concept de biosphère de façon résolument dynamique, et qui fait de la vie un phénomène aux confins de différentes couches écologiques en interaction, la lithosphère.
Donc ça, c'est le minéral.
L'atmosphère.
L'air et les différents gaz.
La biosphère.
Le vivant.
Voilà. Oui. La noosphère.
Ça, c'est la pensée. Hein.
Exactement. Et la technosphère. Alors là, on connaît, hein, c'est les activités techniques de l'homme.
Alors, on a vu à l'international, donc, un autre terme qui n'est pas sans évoquer Gaïa.
Oui, qui est un très beau terme aussi, qui est celui de Pachamama, qui a fait son entrée dans les textes internationaux, notamment au moment du sommet de la Terre, pour désigner la Terre-mère, la Terre nourricière, la fertilité hein, dans la cosmogonie andine et inca. Et le 28 septembre 2008...
Et là, on a vu donc une nouvelle constitution qui a été adoptée par l'Équateur.
Oui, résultat, l'Équateur, c'est quoi désormais ? Le premier État au monde à reconnaître deux choses, la Pachamama et ce qu'on appelle le Sumac Cosai, c'est-à-dire le bien-vivre, comme la prise en considération de la symbiose qui existe entre l'homme et la nature.
Et que dit en fait l'article 71 de cette constitution de l'Équateur ?
Alors, il dit ceci, il dit « Nature, ou Pachamama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soit intégralement respectée son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, toute communauté, tout peuple ou toute nationalité pourra exiger à l'autorité publique l'accomplissement des droits de la nature. »
Alors, faire de la nature un sujet de droit, c'est quand même tout sauf anodin et c'est pas simple.
Et non, c'est pas simple. Alors pourquoi c'est pas simple ? Notamment parce que notre état de droit, à nous, société occidentale, il est anthropocentré. Ça veut dire qu'il défend les droits de l'homme, qu'il juge universels, inaliénables, et qu'à partir du moment où vous commencez à lui mettre une nature comme sujet de droit, la question est la suivante, c'est jusqu'où on peut défendre cette théorie de la nature comme sujet de droit, et est-ce que c'est contradictoire avec les intérêts de l'homme ?
Écoutez, merci à vous aussi, Cynthia Fleury. Ça nous fait toujours du bien, comme ça, de réfléchir aussi en fin d'émission, après une petite balade de terrain. Et les derniers mots de l'émission, à Jacques Bonafé.
La folie des hommes est de croire que la nature sert à ses usages. Fontenelle.
Effectivement, c'est assez fou. Patrick Henry était aujourd'hui à la technique. Je remercie aussi Alexandre Chenet qui a donc mixé ce reportage angevin, à Camille Blanès et Jérôme Boulet qui a colorisé, qui a réalisé toute l'émission. Programmation musicale Thierry Dupin. Anne Gouzon a nourri les sites. La semaine prochaine, je vous emmène en Camargue du côté des Salins de Giraud. Et là, ça va être une reconquête aussi de nature, de biodiversité qui va être totalement différente. Denis Chessou, c'est le Twitter, simplement, tout simplement. Twitter, Denis Chessou. Je vous retrouve ce soir pour l'Atulu, mon petit loup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, pour l'essentiel, un très très bon dimanche.